Alors ce matin, nous allons méditer sur ce psaume qui est si particulier. Alors on va s'attacher à quelques versets. On avancera pas à pas pour montrer une chose, la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Alors quand je lis les psaumes, je suis toujours ébloui par la puissance et l'amour de Dieu. Alors ici, dans ce psaume, David décrit un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est guerrier, mais en même temps, il est proche et il est aimant. Et il décrit aussi, ce qui est important, Dieu comme un allié invincible. Alors quand j'étais enfant, j'avais toujours de l'admiration pour les gars qui étaient grands, costauds et forts, et qui étaient les plus grands de tous les autres gars de la bande. Et souvent, ces grands gaillards que j'admirais, ils savaient se montrer accessibles et sympathiques. Et cela me surprenait, ce mélange de force et de supériorité que montrait, parce qu'il montrait de l'empathie pour moi et pour les plus petits de la bande. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un peu comme ça que David voit qu'il vit cette situation. Il voit tous ses ennemis qui sont puissants et menaçants, hein, parce que quand il écrit, il est dans ces conditions, mais il sait qu'à côté de lui, il a un Dieu puissant, un Dieu vainqueur. Voilà un psaume qui doit nous faire du bien, parce que il nous rappelle que celui en qui nous mettons notre confiance, est tout puissant et que rien ne peut le battre. C'est important pour nous-mêmes, quoi. Alors c'est vrai que quand nous lisons les psaumes, on est ainsi fait, on croit que ce que l'on ressent par rapport au psaume, c'est la juste interprétation de ce que Dieu veut nous dire. Hein, c'est pour ça que les psaumes sont accessibles. Pourquoi ? Parce que les psaumes, si vous voulez, c'est une succession de poèmes avec des images, des comparaisons, des métaphores. Alors, c'est vraiment pas difficile de s'approprier une image avec notre ressenti et notre interprétation. Mais si le psaume est poétique, il donne aussi des affirmations très claires sur la justice et l'amour de Dieu, et il rappelle aussi la petitesse de l'homme. Alors l'avantage des psaumes, c'est qu'ils passent en revue, je dirais, toutes les catégories et toutes les situations possibles de l'être humain. Ils traitent de toutes les émotions et de toutes nos attentes, et il prend en compte aussi tous nos doutes. Et je précise que ce ne sont pas les ressentis qui donnent la juste interprétation, hein, c'est la doctrine. Mais ça n'empêche pas que nous ayons de l'émotion et des ressentis, surtout quand ils sont guidés par le Saint-Esprit. Sans quoi, quelle sécheresse nous aurons en lisant ces textes. Alors pour le psaume 144, il faut savoir que David l'a destiné aux soldats, que ce psaume était destiné pour les combattants. Il a été écrit pour donner un sentiment de force et de victoire. Alors en cela, il est un peu différent des autres psaumes qui sont plutôt appliqués à la louange ou à la supplication. Et le psaume 144 reprend pas mal le psaume 18, comme on peut le voir en comparant le psaume 18 du verset 1 au verset 8. Donc je vais lire quelques extraits. Du serviteur de l'Éternel de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, après qu'il eut délivré de tous les ennemis de Saül. Et il dit, « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Donc on laisse, je ne lis pas en entier, mais on peut laisser afficher le reste du psaume. Alors pour la petite histoire, le psaume 144 a été écrit avant le psaume 18. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question la paternité du psaume. Mais c'est quand même David. Et c'est David qui avait fini ses conquêtes et qui s'est inspiré du psaume 144 pour écrire le psaume 18. Avant, pendant la période difficile des batailles, David était quand même pas mal sous pression. Hein. Il y avait Saül qui courait après il y a eu les Philistins, il y a eu la bataille avec les Syriens, les Gabaonites. Et bon, on a l'occasion pour ceux qui suivent les études bibliques d'étudier dans le livre de Samuel un peu toutes ces batailles et ces difficultés. Donc le psaume 144 est un psaume de guerre, mais après, vers la fin de son règne, lorsqu'il a tout gagné, il reprend le psaume 144 et rédige ce magnifique psaume 18. Tout ça pour dire que c'est vraiment David qui a écrit ce psaume. Donc on va revenir au psaume 144 et on va un peu s'attarder sur le verset 1 et 2, où il est dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur, ma forteresse, mon refuge, et il est mon bouclier. C'est en lui que je me réfugie, et il me soumet son mon peuple. » Alors, David est rempli de force et de vigueur quand il compose, hein, et les détails qu'il donne montrent que c'est un combattant. Et dans ce psaume, c'est rare, il n'y a aucune généralité ni de banalité. Il parle de ses mains, de ses doigts, donc c'est précis et concret. C'est des choses qu'il utilise pour combattre. Après, il élargit un peu le cadre puisqu'il parle de bataille. Et les mains et les doigts précisent l'action directe de Dieu sur les membres de son corps et de nos corps. Dieu nous rappelle qu'il utilise notre corps et nos moyens pour agir et pour faire avancer nos projets, quelle que soit la grandeur de nos moyens. Alors les exemples pratiques ne manquent pas. Nos mains et nos doigts pour animer les ateliers du culte de l'enfance. Nos mains et nos doigts pour la collation, nos mains et nos doigts pour le Noël du cœur, nos mains et nos doigts pour la sono, pour l'accueil, pour le secrétariat, et ainsi de suite. Et c'est vrai que quand on voit le grand vaisseau qu'est l'Église, on voit bien qu'il garde chacun de nous. Alors bien sûr, il y a les épreuves, hein, on n'est pas épargné par les épreuves, mais ici le texte ne souligne pas directement. Ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes entre bonnes mains, et qu'au final, Dieu révèle son dessein bienveillant pour chacun de nous. Alors, je passe en revue les quatre mots. Il parle du bienfaiteur, qui est la première phase. Alors, le mot revient très peu dans la Bible. Je pensais, nous, quand on chante le mot bienfaiteur ou bienfait, on revient très souvent dans notre langage, mais dans la Bible, il apparaît assez peu. C'est un titre honorifique qui a une connotation politique. Et Jésus en parle, il dit... dans Luc 22 au verset 25, il dit « Les rois des nations dominent sur les peuples et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. » Et Mardochée aussi est appelé dans l'Ancien Testament, dans Esther 6:3, le bienfaiteur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu veut notre bien. Tout ce qui est Dieu ne va que dans le sens du bien. C'est cette intention qu'il faut retenir. Une intention permanente de Dieu. C'est dit aussi dans Romains 8, verset 28. Alors pour David, c'est important parce que il est le bras de Dieu en tant qu'autorité politique, il est le roi. Mais pas seulement en tant que politique, mais aussi en tant que militaire et aussi en tant que direction administrative et spirituelle. Donc il doit comprendre que lorsqu'il demande un conseil à Dieu pour gouverner eux, ben Dieu va lui donner des conseils en tenant compte de sa fonction politique de roi. Et plusieurs fois dans le livre de Samuel, on voit que l'attitude de David, il consulte l'Éternel. Et celui-ci, l'Éternel lui répond de façon très claire, hein. Dans 2 Samuel au chapitre 5, versets 23-25, il lui dit « David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Après, donc, il y a le mot forteresse qui apparaît. Alors ça, c'est la deuxième phase. Là, je dirais qu'il s'agit un peu dans la symbolique d'un lieu inviolable dans lequel nous voyons, on peut voir le mal sans qu'il puisse nous détruire. Nous voyons l'opposition, mais nous réalisons que nous sommes protégés. Alors, pratiquement chacun a pu voir à un moment, je dirais, la probabilité du mal, et on voit le danger qui nous guette, mais nous persévérons car il faut persévérer tout en continuant à le servir. Mais cette protection, je dirais, inconditionnelle de Dieu est celle du salut. Et surtout de savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce sont ces deux choses qui sont inconditionnelles lorsqu'on donne sa vie au Seigneur. Donc, la troisième phase, c'est le refuge. David était un fuyard, hein, avant qu'il soit le roi. Il a dû trouver refuge dans une grotte, puisqu'il devait, pour se protéger de Saül. Il a dû même sortir du territoire. Il a dû fuir devant son fils Absalom. Donc, la notion de refuge est très présente et elle a des échos très concrets chez David. Alors, combien de fois n'a-t-il pas trouvé un temps pour consulter l'Éternel et aussi pour connaître sa volonté? Donc, on peut dire que l'Éternel est une valeur refuge. Et je pense que ce mot-là devrait être un conducteur d'âme, de se dire que mon refuge est en Christ, seulement en Christ, exclusivement en Christ et uniquement en Christ. Alors, comment trouver refuge ? Bah déjà, s'isoler, rentrer dans une attitude totale d'abandon en Christ pour, à ce moment-là, sentir la présence de l'Esprit, mais dans l'Esprit, dans sa fonction de consolateur. Hein, c'est Jésus qui dit « Je vous enverrai un consolateur ». Et il s'agit, à ce moment-là, d'être dans une situation d'apaisement. Parce que si on n'est pas apaisé, on est un peu sourd à ce que Dieu veut nous dire. Et puis, dans le silence, c'est attendre la réponse de Dieu. Parce que Dieu est celui qui accueille l'âme perdue. Alors ça passe aussi par une attitude de renoncement. Quand vous êtes en prière, souvent il y a des pensées négatives et des freins qui surgissent. Et c'est là où l'Esprit apporte de l'apaisement, voire de la consolation pour des moments plus critiques. Alors c'est un exercice qui est difficile, hein. Quand l'épreuve est lourde, parfois nous y arrivons, parfois nous voyons souvent David qui crie à Dieu. Et celui-ci répond, mais nous n'avons pas toujours... la main sur le temps et sur les circonstances. J'étais assez surpris de voir sur le stand là-bas un livre qui traite du Dieu silencieux et de la prière inexaucée. Voilà, ce sont des choses qui sont possibles. Donc il faut accepter aussi son impuissance face à quelque chose qui nous dépasse, mais par contre, il faut toujours s'en remettre à Jésus-Christ. Il est souvent difficile de lâcher prise, mais pourtant, David, il l'a fait. Quand il a été en danger de mort ou menacé par plus fort que lui. Il a crié vers Dieu. Il a consulté l'Éternel. Et pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Je dirais que c'est une des grandes leçons des livres des psaumes. Donc la quatrième phase, c'est la phase du processus de l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. C'est le libérateur. Le libérateur, c'est aussi le sauveur. C'est celui qui vient sortir la personne ou le peuple de la captivité. Alors pour Israël, dans l'Ancien Testament, il y en avait qui faisaient ça tout le temps, c'était les juges. Ils étaient là pendant cette période trouble, pendant que Israël était en train de s'installer, ils étaient envahis, et Dieu à chaque fois il envoyait des juges pour libérer le peuple. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui nous sauve, qui nous délivre de la mort et qui nous a libérés du péché. Alors dans cette notion de libérateur, ce n'est pas simplement un processus, parce que dans ce cas-là, le psalmiste aurait dit « libération ». Mais ici, David insiste sur la personne même de Dieu qui libère. Il parle de Dieu, de la personne. C'est lui qui vient nous délivrer. C'est lui qui est capable d'évaluer, qui soutient un peu la situation critique, comme il l'a fait pour Israël en Égypte. Et il le rappelle dans sa parole, où il dit dans le livre des Actes, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. » Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Donc là, c'est vraiment une focale sur la personne de Dieu. Donc Jésus peut nous affranchir des addictions. Il peut nous libérer des péchés confessés mais persistants. Il peut même nous libérer de péchés cachés. Rien, absolument rien ne lui résiste. Nous savons que le mal n'a plus aucun pouvoir et que la seule chose qu'il a, c'est la place que nous lui donnons. Alors David était conscient de sa fragilité politique, hein. Malgré la grandeur de son empire, il se savait fragile, car il pouvait fauter gravement. Il a fait des fois des péchés assez graves, comme son adultère et le recensement. Donc je poursuis un peu plus loin, au verset 3 et 4. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? le Fils de l'homme pour que tu penses à lui. L'homme est pareil à un souffle et sa vie passe comme une ombre. » Donc on retrouve plusieurs fois ces versets dans l'Épître aux Hébreux et au psaume 8. Il s'agit simplement, là je ne vais pas m'attarder, d'une leçon de lucidité. C'est guidé par une question que se pose David. Et elle révèle deux choses. Sur ces versets, il y a deux choses à retenir. C'est, en premier, la splendeur écrasante du Dieu de l'univers et la petitesse de la créature humaine. Et en deuxième, c'est la faiblesse de l'homme et la fonction glorieuse que Dieu lui accorde au sein de la création. Vous voyez comme chaque verset a quand même un enseignement très, très profond. Donc je poursuis du verset 5 jusqu'à 11. Donc je lis quelques extraits et le reste est affiché. Je lis. Éternel, incline ton ciel et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs. Disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux, des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Alors, qu'est-ce qu'il veut bien dire David? Alors, si on veut savoir à quoi fait allusion David, je vous invite à lire tous les récits de guerre, tous les récits de bataille et les difficultés qu'a traversé le roi David. Hein, vous le lisez, donc vous commencez par le premier livre de Samuel, au chapitre 16, jusqu'au deuxième livre de Samuel, jusqu'au chapitre 24. Et après, vous ouvrez le livre des Chroniques, du chapitre 10 jusqu'au chapitre 29. Et pour finir, vous lisez les deux premiers chapitres du livre des Rois, c'est à la fin. Et donc vous voyez que c'est quand même très tumultueux. Donc c'est quelqu'un qui a combattu contre les Philistins, les Gabaonites, les Syriens, etc., etc. Mais au moment où il écrit ce psaume, il vit une situation particulièrement tendue. Et on sent que la pression est présente dans les textes, parce que les images, elles sont fortes, hein, il y a plein de points d'exclamation. Hein, il dit « qu'elle soit fumante », point d'exclamation, « fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute, interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux ». Bon, ça y va, hein. Alors peut-être, quel lien on peut faire entre l'oppression que vit David et notre situation? Notre communauté a dû faire face à plusieurs épreuves et nous n'avons pas eu de réponse définitive et des raisons pour les justifier. Nous ne savons qu'une seule chose, c'est que Dieu est fidèle et mystérieux, mais il nous demande de ne jamais renoncer à lui parler, à crier vers lui notre désarroi et notre douleur. Une chose est sûre, c'est qu'à aucun moment David a renoncé à crier à Dieu. Il n'y avait aucune censure dans la prière. Mets-les en déroute, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux. Et ça, il le répète deux fois. Une autre chose est sûre, c'est quelle que soit l'épreuve, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui assure mon salut. Alors, David garde toute sa liberté d'expression dans sa prière et dans son psaume. Je dirais que ça sert à ça, les psaumes, hein, où chacun trouve le verbe de Dieu pour venir éclairer votre prière ou votre lecture biblique. Alors, je l'ai dit, hein, le texte est là, la Bible est là pour nous guider, pour nous corriger, pour nous instruire, hein, comme il est dit dans la deuxième épître de Timothée. Alors, maintenant, on va poursuivre sur les derniers versets. Alors, c'est un peu plus joyeux, mais vous verrez que Dieu est tout aussi puissant et il est tout aussi fort. Et ça se... que ce que j'ai énuméré dans les versets précédents. Donc, versets 12 à 15. Et là, les choses sont plus réjouissantes. « Ainsi, nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse. Nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. » Et bon, le reste est écrit, je passe, hein, je lis quelques extraits. Alors c'est intéressant parce que là, David, il parle de son règne. Et donc c'est quelqu'un qui a su rétablir la paix, la prospérité en Israël. D'ailleurs, le livre de Samuel le dit, « David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. » Alors, grâce à David, le peuple connaissait la paix à l'intérieur de ses frontières, hein, parce que à l'extérieur, il a quand même pas mal guerroyé, et il a installé une certaine prospérité qui était liée à l'élevage et à l'agriculture. Pour le commerce, ça viendra peut-être un peu plus avec Salomon. David a réorganisé complètement l'administration politique, militaire et religieuse. Il a centralisé le pouvoir à Jérusalem et il en a fait sa capitale. Donc cela a eu pour conséquence que chaque chose était à sa place, chacun savait ce qu'il avait à faire dans un pays, si vous voulez, où l'ordre et l'autorité étaient appliqués. Donc chacun vivait heureux sous sa vigne et sous son figuier. Alors ce passage, pour moi, il montre un peu un parallèle entre le règne de David et il a une portée prophétique. Je dirais, c'est un règne messianique. Quand il dit « nos bœufs seront gros, pas de brèche dans nos murs, ni de déportation, pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple comblé de ses bienfaits, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Alors on peut rapprocher ces versets d'autres prophéties où il est dit dans Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 6, « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. » Donc David parle de son règne, mais dans ce qu'il dit, il donne une dimension messianique qui n'est pas présente dans son règne, hein, parce que s'il était présente, il aurait pu construire le temple. Donc il s'agit ici d'un règne messianique qui est un règne terrestre. Et David parle d'un temps où le mal aura été vaincu, un temps de prospérité terrestre. Et ce temps se rapproche du millénium. C'est ce que décrit David, c'est de nature terrestre. Alors donc, tout ceci, ça prend du temps, hein. Il faudrait parler de la théologie du royaume, hein, de Dieu qui est déjà présent en Jésus-Christ, dans nos cœurs, et à Jésus-Christ qui règne au ciel. Il faudrait parler du millénium plus longuement, car c'est ce à quoi nous renvoie David dans ses versets. Donc cette période de paix et de prospérité nous renvoie à Ésaïe, chapitre 65 et verset 25, qui est un peu une répétition de ce que j'ai lu d'Ésaïe avant, où il est dit « Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent comme la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Alors, ce passage nous donne des éléments pour notre espérance. Premièrement, c'est qu'il existera bien un royaume terrestre où le Christ régnera. Deuxièmement, c'est que notre salut a été définitivement acquis. Et troisièmement, je dirais, qu'ensuite nous vivrons éternellement dans les cieux avec Dieu et les élus. Donc c'est quand même une perspective qui nous permet un petit peu de lever, de regarder un peu plus haut, hein, de chasser nos peurs, de surmonter un peu nos timidités et de pas tomber dans la tiédeur et de pas non plus essayer de se replier sur soi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les actualités, que ce soit les événements géopolitiques en Israël, que ce soit les faits de société et surtout les catastrophes climatiques, on n'est pas très encouragé. Alors pour nous aujourd'hui, ce psaume 144 est un psaume prophétique qui nous appartient de saisir. Prophétique ne veut pas dire plus tard, hein, mais de quelque chose qui est du présent et qui va vers un dénouement, de savoir que Dieu a tout dans sa main et vers un accomplissement prophétique. Et si vous voulez plus d'indices, vous relisez dans l'évangile de Matthieu tout ce que Jésus dit au chapitre 24. Alors aujourd'hui nous savons ce que nous sommes devenus. Nous sommes des hommes et des femmes totalement et entièrement régénérés. Et David a vécu aussi cette transformation spirituelle et humaine, parce qu'il a mené et il a abordé sa vie tumultueuse avec du courage et avec de l'audace. Mais une chose fait la différence. David aimait Dieu et Dieu l'aimait. C'est un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole. Et son aventure humaine laisse de la place à une forme de créativité missionnaire. C'était quelqu'un de très créatif, hein. C'est ce qu'il faut retenir de ce psaume. C'est ce que nous disait Colette tout à l'heure en parlant de créativité. Un psaume qui parle de Dieu, c'est un psaume qui parle de l'homme qui est travaillé par Dieu, d'un homme qui est éprouvé par Dieu, qui est exaucé, qui est puni, qui est béni par Dieu, mais qui reste tout le temps fidèle à Dieu. Alors, et nous dans tout ça? Est-ce que nous sommes aimés de Dieu comme David? Bien sûr, nous sommes même dans une alliance plus excellente, nous dit l'Écriture. Dans Hébreux, il est dit, c'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Alors, pour conclure, nous aussi, nous devons vivre cette créativité spirituelle et missionnaire. Nous savons que servir Dieu de tout son cœur peut déplacer des montagnes. Bon, sans aller jusque-là, soyons humbles et faisons nos tâches et services avec zèle et humanité. Si nous avons la vision prophétique de David, qui doit être aussi la nôtre, alors nous pouvons conclure en disant « Heureux le peuple comblé de ses bienfaits ». Et je dirais, moi, « Heureux l'Église comblée de ses bienfaits ». « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Et je dirais, « Heureuse est l'Église dont l'Éternel est le Dieu ». Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Amen.